Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Claude Ponsou, du ministère La Foi Victorieuse. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus, pour la troisième fois, pour le numéro 3 de cette étude sur le livre de Ruth que nous avons commencé depuis un certain temps. Cette étude qui est intitulée Ton futur sera plus beau que ton passé. Seigneur, je te rends grâce, merci pour ton Esprit Saint qui vient nous assister en ces instants où nous allons parler de ta parole. Que ton Esprit vienne nous conduire dans la révélation de ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons reprendre à partir de là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Je reprendrai à partir de Ruth, chapitre 2, verset 8. La Bible dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face. Ruth tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, elle dit donc à Boaz, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Vous voyez, Ruth recevait tellement de faveurs de la part de Boaz qu'elle en était étonnée. Elle dit à Boaz, comment puis-je trouver autant de faveur et de grâce à tes yeux, moi qui suis une étrangère? Comme nous l'avons déjà vu, Ruth n'était pas juive. Elle vient du pays de Moab, pardon. Donc, quelque part, la loi ne lui permettait pas d'avoir accès à certaines faveurs. Mais dès que Boaz l'a vue, Boaz n'a pas arrêté de manifester de la gentillesse à son égard. Et Ruth s'est rendue compte que elle est en train de recevoir quelque chose qu'elle ne mérite pas. La définition de la grâce, la définition par excellence du mot grâce, c'est la faveur qu'on n'a pas méritée. Vous savez, parfois Dieu peut nous donner des faveurs. Dieu peut nous faire des faveurs et nous ne nous arrêtons même pas pour dire merci à Dieu. Nous reconnaissons que ce bien que tu viens de faire dans notre vie, nous ne le méritions pas, mais tu nous l'as quand même donné. Nous te rendons grâce, merci. Parfois, nous prenons les faveurs de Dieu un peu comme cela, comme si c'était quelque chose que nous méritons. Non, ici, nous voyons que Ruth se rend compte qu'elle a accès, elle est en train d'avoir accès à des bénédictions qu'elle ne mérite pas. Et elle dit à Boaz, comment se fait-il que tu m'accordes autant de grâce? Et maintenant, nous allons voir la réponse de Boaz qui est l'image de Jésus-Christ. Boaz va répondre, Ruth 2, verset 11, la Bible dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Et Boaz continue en disant, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc, Boaz lui dit, je t'accorde toutes ces grâces parce que j'ai entendu n'est-ce pas? Comment tu as servi après la mort de ton mari, comment tu as été fidèle à ta belle-mère? Comment tu as été tellement fidèle à elle que tu as quitté ton pays pour aller vers dans un pays que tu ne connaissais pas? Bref, j'ai entendu comment, quel amour tu as manifesté à la nation d'Israël, quelle foi tu as eue dans le Dieu d'Israël. C'est pour cela que je t'accorde toutes ces faveurs. C'est-à-dire, qui que tu sois, d'où que tu viennes. Ouais, je tiens à préciser que Ruth est née d'une descendance maudite. Nous l'avons déjà vu dans les études précédentes. Donc, selon la loi, elle n'avait accès à aucune faveur. Mais voici que Boaz lui montre autant de faveurs. Et elle demande à Boaz, « Pourquoi est-ce que tu m'accordes autant de faveurs ?» Et Boaz lui répond en fait, « À cause de ta foi. » La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, « Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. » La foi en Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu peut briser toute malédiction dans ta vie. Et ce que la loi t'interdit de recevoir, Jésus qui est au-dessus et supérieur à la loi, va te le donner parce que Jésus aime et Jésus admire et Jésus est attiré par ta foi. C'est important la foi. La foi touche le cœur de Dieu. Et la foi ne touche pas seulement le cœur de Dieu, mais la foi fait que Dieu va commencer à mouvoir. Dieu va commencer à bouger. Dieu va commencer à faire des choses qui seront en ta faveur. Donc, lorsque nous continuons ce texte, nous voyons que, au verset 13, Ruth dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. » Voyez, du fait qu'elle a utilisé le mot « consoler », cela nous donne encore plus l'assurance que nous sommes en présence de Boaz qui est l'image de Jésus-Christ. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ est né, la Bible l'a appelé la consolation d'Israël. Le ministère de Jésus n'est pas seulement de nous délivrer, de nous racheter, mais il est avec nous comme le Saint-Esprit, il est le consolateur. Et Ruth va répondre en disant, « Tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » La foi ouvre la porte à la promotion. Nous l'avons déjà vu. Ruth, la Moabite, est arrivée dans le champ de Boaz. Elle n'avait pas le statut de quelqu'un qui était là pour moissonner. Elle n'était pas venue moissonner, elle était venue glaner. Les moissonneurs sont ceux qui cueillent, c'est un travail qu'ils font, ils sont payés pour ça. Mais ceux qui viennent pour glaner, ce sont des gens qui viennent pour ramasser par terre ce que les moissonneurs ont fait tomber, ont laissé tomber par hasard. Donc ce sont les gens de basse classe, socialement parlant, qui viennent glaner. Ce sont les pauvres qui viennent glaner. Mais dès que Boaz a vu Ruth, Boaz a élevé Ruth du niveau social de quelqu'un qui glane au niveau ou au statut de quelqu'un qui moissonne. C'est une promotion. Ce n'est pas possible que Jésus te rencontre sans que tu ne changes de position. Si Jésus te rencontre, alors il y aura un changement de position dans ta vie. Il y aura une promotion dans ta vie à cause de ta foi. Boaz lui a dit que ta foi soit récompensée. La foi emmène toujours la récompense de Dieu. Donc, nous allons voir que Boaz va commencer à traiter Ruth comme si elle faisait partie d'un moissonneur. Alors, la Bible dit, verset 14, « Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Alors, la Bible dit elle s'assit à côté des moissonneurs. Ça, c'est ce que j'appelle la promotion. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Elle n'avait pas le droit de s'asseoir à côté des moissonneurs parce qu'elle n'est pas des moissonneurs. Elle est venue pour glaner. Mais dès qu'elle est rentrée dans la faveur de Boaz, Boaz l'a faite asseoir à côté des moissonneurs. Si Dieu vous fait asseoir à côté des rois, c'est qu'il vous considère comme un roi ou comme une reine. C'est une élévation. Donc la Bible dit, Boaz lui dit, approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu du juste assez. Dieu est le Dieu du plus qu'assez. Et le nom du Dieu du plus qu'assez, c'est le El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu qui te donne plus qu'assez. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit que quand Ruth est venue manger, on lui donna du grain rôti. D'abord, le grain rôti, c'est un symbole. Bon, c'est vrai, c'était de la nourriture, mais c'était prophétique. Parce que lorsque vous lisez Jean chapitre 12, à partir du verset 24, Jésus parle de lui-même. Et il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne pourra pas porter de fruits. Donc, ici, le grain rôti, c'est Jésus-Christ. Rôti, ça veut dire passer par le feu. C'est-à-dire, Jésus-Christ crucifié. À la croix, il est passé par le feu de la souffrance, le feu du sacrifice. Donc, le grain rôti, c'est l'image de Jésus crucifié. Boaz a donné à Ruth du grain rôti, c'est-à-dire Jésus crucifié. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir part à la grâce de Dieu, à la rédemption, sans passer par Jésus crucifié, sans passer par la croix. Donc, Boaz lui donna Jésus crucifié, c'est-à-dire, il lui donna du grain rôti. La Bible dit, elle mangea, numéro 1, se rassasia, numéro 2, et garda le reste, numéro 3. Quand Dieu te bénit, il ne te donne pas juste assez, il te donne plus qu'assez. Elle a mangé, elle était rassasiée, et il lui en restait encore. Dieu dit, je ne vais pas seulement te bénir juste pour ta satisfaction, mais quand je vais te bénir, il t'en restera encore. Vous voyez, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, je te bénirai pour que tu sois une bénédiction. Quand quelqu'un est vraiment béni, quelqu'un qui est béni, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit juste assez. Non. Quand tu es béni, tu reçois juste assez et il t'en reste encore pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Et j'aime ça. J'aime ça parce que Ruth a mangé, elle fut rassasiée et elle garda le reste. Et le verset 15 dit, « Puis elle se leva pour glaner. » Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Vous voyez, je vais vous faire remarquer quelque chose. J'aime les petits détails. Alors, le verset 15 dit, vous avez vu, Boaz l'a fait asseoir à côté des moissonneurs. C'était une promotion. Maintenant, après avoir fini de manger avec les moissonneurs, la Bible dit, elle a continué à glaner. C'est-à-dire à faire un travail qui est en dessous du travail des moissonneurs. En fait, spirituellement, elle a déjà reçu la promotion. Mais physiquement, elle continuait toujours de faire le même travail. Vous voyez, quand Dieu commence à bénir, il commence d'abord spirituellement. Il y a certaines personnes qui sont dans une situation, les gens vous voient toujours en train de faire la même chose, mais ils ne savent pas encore que vous avez déjà rencontré Boaz. Les gens vous voient toujours en bas, mais ne savent pas encore que Boaz vous a déjà élevé. vis-à-vis de Dieu, vous êtes déjà à un niveau supérieur. La Bible dit, nous sommes sur la terre, mais nous sommes aussi assis dans les lieux célestes. Donc, avant que la promotion de Dieu se manifeste matériellement, les gens vous verront toujours au même endroit. Ils vont toujours vous regarder bas. Ils vont toujours vous regarder de haut. Ils vont toujours vous déconsidérer. Mais ils ne savent pas que spirituellement, vous êtes déjà assis avec les moissonneurs. Donc, Ruth a continué à glaner. Physiquement, elle glanait, mais spirituellement, elle était déjà au niveau des moissonneurs. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Ce que Boaz est en train de faire ici est extraordinaire. Et je prie que le Seigneur fasse la même chose dans votre vie. Boaz dit aux serviteurs, écoutez, Ruth est en train de glaner. C'est-à-dire, elle est en train de ramasser les épis qui tombent par hasard pendant que vous, vous êtes en train de moissonner. Mais écoutez, je vous donne un ordre, vous qui êtes mes moissonneurs. Vous allez laisser tomber exprès quelques épis pour elle, en sorte qu'elle ne dépende pas du hasard, mais qu'elle dépende de vous, qu'elle dépende de la manifestation de mon amour pour elle. Donc, elle ne va pas seulement glaner des épis qui sont tombés par hasard. Vous allez laisser exprès. Vous allez laisser tomber les épis exprès pour elle. Ça, c'est formidable. C'est formidable parce que si le maître a donné cet ordre, c'est que Ruth ne sera plus jamais dans le manque. Les épis tombaient par hasard et elle les ramassait. Mais là, Boaz a dit, elle ne va plus ramasser par hasard. Vous allez laisser tomber exprès des épis pour elle. Vous est-il déjà arrivé dans votre vie de rencontrer une grande bénédiction dans un endroit où vous n'avez jamais rêvé d'en rencontrer? Eh bien, ça veut dire que Boaz a dit à ses anges de laisser cette bénédiction sur votre chemin. Il y a des jours, vous n'avez même pas un franc en poche. Vous sortez de votre maison et vous trouvez 50 euros par terre. Non, c'est pas un hasard. Boaz a dit à ses anges de vous laisser cet argent sur votre chemin. Il y a des bénédictions que Dieu sème sur nos chemins. Lorsque cela nous arrive, nous avons l'impression que, oh non, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un chrétien. Non, c'est Jésus-Christ, notre Boaz, qui a ordonné à ses moissonneurs, les anges. Écoutez, mon fils va passer par ce chemin. Ma fille va passer par ce chemin. Vous devez laisser tomber exprès telle bénédiction, telle bénédiction, telle bénédiction, telle bénédiction. Parce que je ne veux pas que ma fille souffre. Je ne veux pas que mon fils souffre. Je veux qu'il sache que j'ai en réserve des bénédictions pour lui et pour elle. J'ai été très touché par cela. Boaz a rendu la tâche de Ruth facile. Ruth ne dépend plus du hasard. Ruth sait que Dieu a une provision pour elle. Boaz a dit, les moissonneurs vont laisser tomber exprès. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour quelqu'un qui est dans un besoin particulier, que Dieu va laisser tomber exprès ce que tu désires, ce qui est un manque dans ta vie. Dieu va le laisser tomber exprès. Alors que tu es en chemin et que tu n'y penses pas, tu rencontreras les moissonneurs de Boaz. Tu rencontreras les moissonneurs de Boaz. Je suis ici pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Dieu dit jusqu'à maintenant, tu as toujours vécu du hasard. Dieu dit jusqu'à maintenant, tu as toujours dépendu des hommes. Dieu dit jusqu'à maintenant, tu as toujours été victime des situations et des circonstances. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie que j'ai donné un ordre à mes moissonneurs, j'ai donné un ordre à mes anges, que tu ne seras plus jamais dans le manque parce que j'ai une provision pour toi qu'ils vont laisser sur tes chemins. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'onction de Boaz. Merci Seigneur pour les moissonneurs de Boaz qui sont en fait des anges, qui vont travailler pour toi, qui vont ouvrir cette porte qui ne s'est jamais ouverte. Ouvrir cette porte qui ne s'est jamais ouverte. Briser cette barrière qui t'empêche d'aller de l'avant. Dieu dit, tu as fait trop d'efforts, maintenant tu ne feras plus d'efforts, je vais laisser tomber exprès des bénédictions sur ton chemin. Et la Bible dit, à partir du verset 17, elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. La Bible dit, quand elle avait glané, elle avait eu pour un épha d'orge, ou si vous voulez, une mesure d'orge. C'est important de souligner cela, parce que nous allons y revenir bientôt. Un épha ou une mesure d'orge, c'est-à-dire qu'elle avait ramassé des épis, et avec ces épis-là, lorsqu'on fait sortir les grains, elle pouvait faire avec cela une provision de pain pour 10 jours. Avec un épha d'orge, elle pouvait faire une provision de pain pour 10 jours. Ça, c'est ce qu'elle obtenait après avoir glané. Et la Bible dit, à partir du verset 18, elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Vous voyez, quand Ruth allait glaner, elle rentrait à la maison avec une partie de ce qu'elle avait eu, qu'elle donnait à sa belle-mère Naomi. Nous voyons que nous avons déjà vu que Ruth est l'image de l'Église et Naomi est l'image d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église doit aussi penser à bénir Israël. L'Église doit s'attacher à Israël. L'Église doit aider Israël. L'Église doit bénir Israël. L'Église doit participer à des œuvres de charité qui seront aussi en faveur d'Israël. Parce que Ruth est rentrée à la maison, elle n'a pas mangé tout ce qu'elle avait récolté, elle a ramené une partie à sa belle-mère Naomi. Verset 20, la Bible dit, Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni. Ah oui, je vais remonter un peu plus haut. La Bible dit d'abord, sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fit, il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Souvenez-vous, nous avons déjà parlé dans les chapitres précédents de ce que c'est que le droit de rachat. Donc, Naomi était en train de dire à Ruth, cet homme Boaz, chez qui tu es parti travailler, il a sur nous le droit de rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme peut t'épouser pour enlever ton veuvage et donner une postérité, c'est-à-dire des enfants, à ton mari, mon fils, qui est mort sans avoir eu d'enfant. Ça veut dire que cet homme, il a le droit de rachat, c'est-à-dire que cet homme est comme une protection pour nous. Il est quelqu'un qui est là pour nous protéger et pour nous venger de toutes mésaventures qui pourraient nous arriver. Alors, verset 21, Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Verset 22, Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ça, c'est une parole réma pour quelqu'un. Ruth a dit à Naomi a dit à Ruth qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Il y a des gens, ils arrivent dans un endroit où Dieu les bénit. Et pour un rien, ils quittent cet endroit pour aller dans un autre endroit. Non, qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ, qu'on ne te rencontre pas dans une autre église où on enseigne des doctrines bizarres, qu'on ne te rencontre pas dans une autre assemblée qui ne connaît même pas le Seigneur, qu'on ne te rencontre pas dans un endroit qui ne glorifie pas Dieu. Non, reste là où tu as rencontré Boaz. Reste dans ce champ, le champ de la saine doctrine, le champ de la bonne doctrine. Parce que si tu changes de champ, tu risques de passer à la malédiction. Tu as rencontré Boaz dans ce champ qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. Qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. Ne laisse pas l'ennemi te détourner de là où tu es, où tu as rencontré Dieu, où Dieu t'a béni, où Dieu n'a même pas encore fini d'accomplir toutes les promesses qu'il a faites pour toi. Qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. Verset 23. Elle resta donc, c'est-à-dire Ruth, resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Ainsi se termine le chapitre 2 de Ruth, n'est-ce pas? Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Maintenant, nous allons aborder le troisième chapitre du livre de Ruth, Ruth chapitre numéro 3. Souvenez-vous, le livre de Ruth est composé de 4 chapitres et nous avons donné un sous-thème à chaque chapitre. Le sous-thème du premier chapitre, c'était « La foi part sans savoir où elle va ». Le sous-thème du deuxième chapitre était « La foi fait toujours quelque chose ». Le sous-thème du troisième chapitre sera « La foi est obéissante et soumise ». La foi obéit et la foi se soumet. Donc, à partir du premier verset du chapitre 3, la Bible dit, « Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Ah, j'aime bien ce verset. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'en ont pas l'air. Quand on les voit, on les regarde juste comme ça, mais on ne sait pas que, au fond de ces gens, il y a une grande sagesse divine, que ces gens-là transportent quelque chose de Dieu, la sagesse de Dieu. Parce que quand on voit la vie de Naomi, je le dis toujours, la vie de Naomi était remplie d'amertume, de défaite et de déception. Mais malgré toutes ces expériences amères que Naomi a expérimentées, Naomi connaissait quand même le secret pour rendre quelqu'un heureux et pour que quelqu'un puisse trouver du repos. Ça, c'est fort, cette parole que Naomi a dite à Ruth. Je vais te rendre, je vais t'apprendre certaines choses en sorte que tu puisses trouver du repos et que tu sois heureuse. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'au travers de cet enseignement que nous sommes en train de faire sur Ruth, que le Saint-Esprit puisse parler la révélation de Dieu à quelqu'un, afin que tu puisses trouver du repos et que tu sois heureux sur cette terre. Lorsque quelqu'un est capable de vous parler comme cela, ça veut dire que la personne a une sagesse divine, parce qu'il n'y a que la sagesse de Dieu qui puisse réellement donner le vrai repos et le vrai bonheur. Vous voyez. Donc, ici, nous voyons Naomi se positionner dans la vie de Ruth comme comment dirais-je, sa mère spirituelle, sa source spirituelle. Et nous avons un mot pour cela, c'est le mot mentor. Naomi se présente ici comme le mentor de Ruth. C'est quoi un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui est suffisamment riche en sagesse et en expérience, riche en tout, pour pouvoir te donner des conseils. Un mentor, c'est quelqu'un qui est là pour te donner des directions et des directives. C'est quelqu'un, lorsque tu vas vers lui, lorsque cette personne te parle, lorsque tu agis sur ce que cette personne t'a dit, tu trouves la paix et le bonheur. C'est ça le mentor. Le mentor, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous parle, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit selon la sagesse de Dieu. Mais le Saint-Esprit inspire aussi des hommes et des femmes pour être des mentors dans la vie de tout un chacun. Je trouve que toute personne a besoin d'avoir un mentor dans sa vie. Même le président des États-Unis, il a quelqu'un qui lui dit, fais ceci, je pense que c'est mieux si tu fais ça. Je pense que tout le monde a un mentor. Les gens qui réussissent généralement ne réussissent pas d'eux-mêmes. Ils réussissent parce qu'ils sont encadrés par un mentor. Et là, je parle de mentor inspiré par le Saint-Esprit. Et Naomi, ici, va jouer le rôle de mentor dans la vie de Ruth. Et j'aime bien, permettez-moi de reprendre encore ce verset. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Alors, il y a des gens, quand ils vous donnent des conseils, quand vous suivez leurs conseils, vous trouverez la paix et le bonheur. Mais il faut être quelqu'un d'obéissant et quelqu'un qui est soumis pour écouter les conseils et appliquer les conseils. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur donne des conseils parce qu'ils sont tellement intelligents et souvent ils sont même plus spirituels que le Saint-Esprit. Mais il faut l'humilité pour être capable de recevoir des conseils et d'appliquer ces conseils. Donc, nous allons voir quels conseils est-ce que Naomi va donner à Ruth pour que Ruth trouve le repos et le bonheur. Verset 2. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Nous allons reprendre, verset par verset, les conseils que Naomi vient de donner à Ruth. Elle dit à Ruth, observe là où Boaz va dormir. Laisse Boaz manger et boire. Et quand il va dormir, tu vas aller te coucher à ses pieds. Ne commençons pas à avoir des mauvaises pensées ici. Parce que ce que Naomi est en train de dire à Ruth, c'est un secret qui fait partie des coutumes juives pour solliciter de la part de quelqu'un le droit de rachat. Donc, c'est Naomi en train de révéler à Ruth la coutume juive pour qu'elle puisse avoir accès à la bénédiction. Donc, elle lui dit, numéro 1, Boaz et les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Sache que cet homme a le droit de rachat sur toi. Voici, il doit vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Alors, comme je dis toujours, ce sont des conseils très pratiques. Hein? Maintenant, Naomi est en train de donner des conseils à Ruth pour apprendre à Ruth comment plaire à Boaz. Et elle dit à Ruth, avant d'aller le voir, numéro 1, lave-toi. Numéro 2, oins-toi. Ça, c'est un conseil très pratique pour quelqu'un qui veut se marier. La première fois que tu rencontres ton fiancé ou ta fiancée, que vous avez rendez-vous, la première chose à faire pendant que tu vas au rendez-vous, ben, lave-toi et oins-toi, c'est-à-dire parfume-toi. Ça, c'est tout à fait pratique comme conseil. Maintenant, nous allons prendre ce conseil d'une façon spirituelle. Lorsqu'elle dit « lave-toi et oins-toi », qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, la Bible dit, alors Éphésiens chapitre 5, verset 25. La Bible nous dit dans ce passage, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. En la lavant par l'eau de la parole. Donc la parole de Dieu, c'est une eau qui nous lave. La parole de Dieu, l'eau est le symbole de la parole de Dieu. Donc, Naomi a dit à Ruth, avant d'aller le rencontrer ce soir, numéro 1, lave-toi. Côté pratique, lave-toi, va dans la douche et lave-toi. Côté spirituel, lave-toi avec la parole, c'est-à-dire médite bien la parole de Dieu. Mange bien la parole. Repose-toi bien dans la parole. Lave-toi avec la parole, parce que l'eau est le symbole de la parole. Ensuite, elle dit, oins-toi, ou d'autres traductions disent, parfume-toi. Oins-toi ou parfume-toi. C'est quoi le parfum? Le parfum, dans un cadre normal et pratique, le parfum, c'est le parfum. Apocalypse chapitre 5, nous allons voir ce que représente le parfum spirituellement parlant. Alors, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8, la Bible dit, « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Alléluia. Donc, l'onction, quand Naomi dit à Ruth, « Oins-toi ou parfume-toi », cela parle de prière. Le parfum, c'est la prière. La Bible dit dans Apocalypse, c'est les prières des saints, c'est-à-dire des chrétiens. Donc, qu'est-ce que Naomi lui a donné un conseil à double valeur. Lave-toi et parfume-toi. Physiquement, lave-toi et parfume-toi. Sois propre, c'est tout à fait normal. Tu vas rencontrer quelqu'un à qui tu veux plaire. Tu ne vas pas voir cette personne sans te maquiller, sans être belle, sans bien te présenter. Ça, c'est la chose la plus pratique. Maintenant, spirituellement, lave-toi, ça veut dire mange la parole, médite la parole. Et parfume-toi, ça veut dire rentre dans la prière. Prie avant d'aller. Donc, nous voyons que Ruth va écouter les conseils de sa belle-mère. Et qu'est-ce qui va se passer? La belle-mère lui dit, quand tu vas descendre à l'air, tu ne te feras pas connaître à quelqu'un. Jusqu'à ce que Boaz ait fini de manger et de boire. Alors, Naomi dit à Ruth, surtout ne parle pas à Boaz, ne te fais pas connaître à quelqu'un, laisse Boaz finir de manger et de boire. Alors, j'ai remarqué en lisant la parole de Dieu qu'il ne faut pas solliciter chez quelqu'un la bénédiction si cette personne a faim. Ça fait rire, mais c'est une réalité qui se trouve dans la Bible. Je vais vous donner un exemple. Quand Isaac voulait bénir Ésaü, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon fils, va à la chasse, tue un animal, fais-moi un bon repas. Quand j'aurai fini de bien manger, je vais relâcher la bénédiction sur toi. Et lorsque Esther voulait solliciter la faveur de son mari, le roi Assuérus, lorsque le roi lui a permis d'entrer dans sa cour pour lui parler, quand le roi lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Esther était venue demander au roi son aide pour empêcher qu'on puisse persécuter son peuple, les Juifs. Mais quand le roi lui a dit, « Parle, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Elle n'a pas dit au roi, « Ah non, je veux que tu viennes à mon secours, mon peuple est en danger. » Non, elle a dit au roi, « Je veux t'inviter dans mon palais. » Parce que j'ai prévu de faire une fête où tu vas manger et boire. Donc, Elle a d'abord invité le roi. Le roi a mangé, a bu. Et après, le roi a exaucé les désirs de son cœur. Donc, c'est important. Ne sollicitez pas la bénédiction chez quelqu'un qui a faim. Donc, Naomi a dit à Ruth, attends quand Boaz aura fini de manger, quand il aura fini de boire et qu'il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Et ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Vous voyez? Ça ne veut pas dire découvre, va voir où il se couche et puis va coucher avec lui. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ruth n'est pas partie pour coucher avec Boaz. Non, non. Non. Naomi est en train de lui montrer les secrets qu'il y a dans la coutume juive pour solliciter le droit de rachat auprès de quelqu'un. Et d'abord, elle ne lui a pas dit « va te coucher à côté de lui ». Elle lui a dit « va te coucher à son pied, à ses pieds ». Vous savez, Boaz est l'image de Jésus-Christ. Être au pied de Boaz, ça veut dire être au pied de Jésus-Christ. Et quand vous lisez la Bible, tous ceux qui vont au pied de Jésus-Christ, ils ressortent toujours guéris, délivrés et restaurés. Parce qu'au pied de Jésus-Christ se trouve la grâce, la délivrance et la guérison. La bénédiction est au pied de Jésus-Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Que ce que je vais dire n'offense personne. Vous voyez, le plus souvent lorsque nous allons... Parce que Ruth est une immigrée. C'est une immigrée dans le pays d'Israël. Mais comment l'immigrée Ruth a pu obtenir autant de faveurs? Parce que quand Ruth est arrivée en Israël, elle s'est attachée aux coutumes d'Israël. Je ne dis pas lorsque nous arrivons dans un pays d'oublier nos racines. Non, on ne peut pas oublier ses racines. Mais ce que je dis, lorsque nous sommes dans un pays étranger, apprenons les coutumes de ce pays. Parce que si nous n'apprenons pas les coutumes du pays dans lequel nous sommes, nous ne saurons jamais comment obtenir la faveur dans ce pays. Il y a certaines personnes, quand ils arrivent dans un pays, la première chose qu'ils demandent, c'est s'il n'y a pas une association des gens de son pays dans ce pays. Et ils restent dans cette association. Ils parlent les langues de son pays, mangent la nourriture de son pays. Il est à l'étranger, mais c'est exactement comme s'il est toujours dans son pays. Non, je ne dis pas de rejeter notre pays. Non. On ne peut pas rejeter ses racines, mais pour évoluer à l'étranger, il faut t'attacher à la coutume. Quand Ruth est arrivée à Bethléem, elle n'a pas dit à Naomi, est-ce qu'il n'y a pas ici l'association des ressortissants de Moab? Il n'y a pas l'association des Moabites ici? Non, parce que si elle s'est attachée à l'association des Moabites, elle n'allait pas rentrer dans les secrets de la coutume juive. Là, Naomi lui a révélé comment faire pour être béni selon sa coutume. Intéresse-toi à la coutume du pays où tu vis. Et Dieu va t'élever dans ce pays. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que, verset 6, vous voyez, Naomi lui a donné un conseil. Et Naomi lui a dit, quand tu vas découvrir ses pieds et te coucher, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Vous voyez, un mentor, c'est quelqu'un qui te donne des conseils et qui te dit comment ça va se passer quand tu vas exécuter ces conseils. Ah, ça c'est formidable. Je prie, Seigneur, que tu mettes vraiment des mentors inspirés du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que nous en avons vraiment besoin. Le verset 6 dit, elle descendit à l'air. Ruth descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Ah, je comprends maintenant pourquoi, si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut d'abord le faire manger et boire, parce que après avoir mangé et bu, le cœur devient joyeux. Ouais, je suis sûr que ce que nous sommes en train de dire, ça fait rire quelqu'un, mais et pourtant, c'est la vérité. C'est vérifié dans la Bible. C'est très important. Vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, invitez la personne au restaurant, par exemple. Vous faites un bon plat à la maison, invitez la personne, que la personne mange, vous le recevez bien. Puis après, vous placez votre demande parce qu'il a le cœur joyeux, il va vous bénir. Donc la Bible dit, Boaz mangea et plut, son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Alors, découvrir les pieds de quelqu'un, ça veut dire que Ruth a enlevé la couverture qui couvrait ses pieds. Alors, Ruth a enlevé la couverture qui couvrait ses pieds et Ruth s'est couchée aux pieds de Boaz. Alors, la Bible dit, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Alors, avant de continuer, écoutez ce que Ruth lui a dit. Lorsque Boaz s'est réveillé et qu'il a vu que quelqu'un était couché à ses pieds, il a dit, qui es-tu? Et Ruth a parlé et Ruth lui a dit, étends ton aile sur ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Nous allons nous arrêter sur ce mot « aile » pour pouvoir, mieux comprendre ce que Ruth voulait dire par « aile ». Souvenez-vous, lorsque Boaz avait parlé à Ruth, il avait dit à Ruth dans Ruth chapitre 2, il avait dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait » et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc, nous rencontrons souvent le mot « aile » dans ce texte. C'est quoi les ailes en question? Ruth a dit à Boaz, « Étends ton aile sur moi. » Ça veut dire « étends ta grâce sur moi, étends ta protection sur moi, étends ton amour sur moi, étends ta miséricorde sur moi. » Et d'une façon plus concrète, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit lorsque la Bible parle des ailes. Alors, c'est quoi les ailes? Vous savez, les Juifs, dans leur coutume, ont l'habitude d'utiliser un châle qu'ils appellent le talit. Alors, le talit, c'est cela, c'est ça, que beaucoup d'entre vous, certainement, vous connaissez. Souvent, ils mettent le talit sur eux, n'est-ce pas? Et normalement, les rayures qu'il y a dans le talit, originellement, normalement, ça devrait être de couleur bleue. Ici, c'est de couleur noire, mais ce n'est pas grave. Essayons de découvrir la vérité qu'il y a derrière cela. Donc ça s'appelle le talit. Et le talit se termine toujours au bout par des franges. Alors, ce sont ces franges-là, ces franges que l'on appelle ailes. Ces franges, ce sont les ailes. Alors, il y a des passages dans la Bible que nous avons déjà lu et qui, en fait, ont un sens complètement différent lorsque nous tenons compte de la valeur du talit. Par exemple, lorsque Ruth dit à Boaz, étends sur moi ton aile, ça veut dire étends sur moi les franges de ton talit. Et pourquoi est-ce qu'elle dit cela? Parce que l'aile, qui sont les franges du talit, dans l'aile se trouve la guérison. Lorsque nous allons dans Malachie chapitre 4, par exemple, nous allons voir dans Malachie chapitre 4, la Bible dit, à son verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. » Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » La guérison sera sous le talit, dans les franges. C'est ça, les ailes. Et vous vous souvenez, allons rapidement dans Marc, chapitre 5. Dans Marc chapitre 5, nous allons revoir sous un autre jour, sous un jour nouveau, ce texte de Marc chapitre 5. La Bible dit dans ce passage qu'il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alors cette femme disait, « Si seulement je peux toucher les vêtements de Jésus, je serai guérie. » Quand elle parlait des vêtements de Jésus, elle parlait du talit de Jésus. En fait, cette femme n'avait pas touché les vêtements de Jésus. Elle avait touché les ailes du talit de Jésus. Parce que Malachie 4 dit, dans les ailes se trouve la guérison. Et quand elle avait touché les ailes de son talit, la Bible dit, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui s'est manifesté dans son corps. La maladie l'a quitté à l'instant. Donc, c'est le talit. Les ailes, les franges du talit que cette femme a touché. Donc, à la fin de Marc chapitre 5, nous allons voir encore quelque chose qui est encore plus expressif. Marc 5, verset 41, la Bible parle de la fille de Jaïrus qui était morte. Elle était morte. Elle était couchée dans son lit, dans sa chambre. La Bible dit, Jésus est rentré dans la chambre. Quand Jésus est rentré dans la chambre, Marc 5, verset 41, Jésus a saisi la jeune fille qui était morte. La Bible dit, il l'a saisie par la main et lui dit, Talita Koumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Merci Seigneur que cette parole puisse amener le changement dans la situation de quelqu'un. Dieu dit à quelqu'un en cet instant, lève-toi, je te le dis. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, en faisant cela, Jésus a dit, Talita Koumi. Alors, Talita Koumi, nous retrouvons le nom Talit dans Talita. Donc, le Talit, c'est cela. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la main de cette jeune fille, mais a jeté son Talit sur la jeune fille. Donc, Talita Koumi, en réalité, ça veut dire jeune fille qui est sous le Talit. Lève-toi. Jeune fille qui est sous le talit, lève-toi. Et la Bible dit, cette jeune fille qui était morte s'est levée immédiatement. Dans le nom de Jésus, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, dans ta situation, dans ta position, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille, que le talit de Jésus vienne sur toi et lève-toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous voyons le sens de lorsque Ruth dit à Boaz, couvre-moi de ton aile, c'est-à-dire couvre-moi de ton talit. Elle parlait de son talit, du talit de Boaz, et la Bible dit dans la tradition juive, c'est comme ça, Dieu a mis l'onction dans les ailes du talit, c'est-à-dire dans les franges. C'est là où se trouve la guérison. Donc, c'était pour elle une manière de dire à Boaz, restaure-moi, guéris-moi, délivre-moi, viens à mon secours, sauve-moi, fais quelque chose pour moi. Donc, la Bible dit, quand Boaz s'est rendu compte que c'était Ruth, Boaz a dit ceci. Alors, Ruth, nous allons retrouver rapidement le livre de Ruth. Voilà, Boaz a dit, Ruth 3, verset 10, « Sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, Ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Alors, vous voyez, si Ruth était partie là juste pour séduire physiquement et coucher avec Boaz, Boaz n'allait pas lui dire « tu es une femme vertueuse ». Non, elle était partie sous les conseils du mentor, au pied de Boaz, Jésus-Christ. Si tu viens au pied de Jésus, Jésus te donnera ce que tu veux, parce que tout se trouve au pied de Jésus. Et quand Boaz lui a parlé, Boaz lui a dit, tu es une femme vertueuse. Ruth est la seule femme dans toute la Bible que la Bible a qualifiée directement de femme vertueuse. Bien sûr, nous savons qu'il y a beaucoup de femmes nobles, vertueuses dans la Bible, mais Ruth est la seule que la Bible a directement traitée avec le qualificatif de femme vertueuse. La femme vertueuse, Proverbe chapitre 31. Vous connaissez ce chapitre. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et je réponds toujours, le pasteur Jean-Claude. Alléluia! Qui peut trouver une femme vertueuse? Le pasteur Jean-Claude a trouvé une femme vertueuse. Alléluia! Donc, dans le Proverbe chapitre 31, la femme vertueuse dont parle ce passage, Proverbe 31 a été écrit par un certain Lemuel. Lemuel, c'est le petit nom, le surnom du roi Salomon. Donc, tout ce qui a été écrit dans Proverbe 31, c'est Salomon qui parlait de sa mère, Bathsheba, celle qui a commis l'adultère avec David. Vous imaginez que celle qui a commis l'adultère est devenue une femme vertueuse. Tellement vertueuse que son fils Salomon, c'est-à-dire Lemuel, a fait tout un chapitre sur elle. Ah, j'aime ça! Pourquoi j'aime ça? Parce qu'avec le Dieu de grâce, quel que soit ce que tu as fait dans ton passé, ton futur sera toujours plus beau que ton passé. C'est un Dieu qui t'aime. C'est un Dieu qui est prêt à te pardonner. C'est un Dieu qui peut te restaurer. Si Bathsheba qui a commis l'adultère est devenue la femme vertueuse de Proverbe 31, c'est que Dieu est vraiment un Dieu de grâce. Et nous voyons cette même grâce dans la vie de Ruth. Boaz, en rencontrant Ruth dans son champ, pouvait dire, qu'est-ce qu'elle fait cette femme dans mon champ? C'est une femme qui est maudite, elle vient de la descendance Moab et tout ça. Sortez-la de mon champ pour que la poisse ne vienne pas sur moi. Non! Quel que soit d'où tu sors, Jésus t'aime. Boaz a dit à Ruth, je t'accorde toutes ces faveurs parce que j'ai entendu parler de ta foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, ah, tu peux te relever encore. Si tu as la foi, tout ce qui a été cassé, Jésus va le rebâtir encore. Si tu as la foi, toutes les portes qui sont fermées, Jésus va les ouvrir. Si tu as la foi, toutes les barrières qui te bloquent, Jésus va les enlever. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Que cette faveur que Boaz a manifestée à Ruth soit tangible et manifeste dans votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.